C'est un curieux paradoxe que l'Évangile. En effet, l'Évangile est une bonne nouvelle, c'est ce que veut dire le mot Évangile. C'est la bonne nouvelle de l'amour et de la paix. Pourtant, il y a dans l'Évangile beaucoup de violence. Depuis le massacre des innocents, en passant par les marchands du temple, en passant également par les paraboles qui sont parfois extrêmement dures, comme la parabole des mines dans Luc, où le roi qui représente Dieu conclut la parabole en disant « Ceux qui ont refusé que je règne sur eux, faites-les venir ici et gorgez-les en ma présence. » Voilà qui est quand même stupéfiant. Et puis cette violence, bien sûr, culmine dans la croix du Christ, dans la Passion, avec ce simulacre de procès, avec ces tortures qui lui sont infligées, et finalement cette mort infamante d'un innocent. Voilà qui est bien curieux. Et comment peut-on là-dedans trouver une bonne nouvelle? Comment peut-on là-dedans trouver un message de vie, comme nous devrions le faire? Voilà une question que je me suis souvent posée. Il faut dire d'ailleurs que le christianisme est un curieux paradoxe. Voilà que le christianisme fait d'un instrument de torture, qui est la croix, d'un instrument de mort, le symbole même de sa bonne nouvelle, comme si nous montrions et que nous portions en chaîne, en or, des guillotines ou des chaises électriques pour dire que c'est merveilleux la vie. Avouez que c'est quand même assez curieux. Donc vous voyez, il y a un véritable travail intellectuel à faire pour essayer de remettre les choses dans l'ordre et de comprendre comment cette souffrance, comment ce mal absolu de la passion peut devenir pour nous une bonne nouvelle. Alors que faire de cette violence? Eh bien, la première solution, je l'écarte tout de suite, ce serait de dire qu'elle nous présente un Dieu violent, méchant, jaloux, un Dieu qui juge, un Dieu qui venge, et Dieu que l'on rencontre peut-être plus souvent dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, mais on peut aussi l'entendre ainsi dans le Nouveau. Mais ça ne me convient pas, parce que je crois fondamentalement dans un Dieu d'amour, de pardon, de paix. Je crois que Dieu n'est jamais source de mal, jamais source de souffrance, ni même complice du moindre mal, ni de la moindre souffrance dans ce monde. Par conséquent, je ne vois pas du tout comment on pourrait associer Dieu à la moindre de ces violences ou de ces souffrances exprimées dans la Bible, et même à la moindre de ces souffrances de la passion. Alors me direz-vous, les bons théologiens sont plus subtils que cela, et ils disent « Oui, mais en fait, Dieu est bien à l'origine de cette violence de la croix, parce qu'on enseigne dans les catéchismes que la croix est bien voulue par Dieu, qu'elle fait partie du plan de Dieu pour nous sauver, etc. » Donc Dieu est bien la source, le responsable de cette souffrance de la croix, mais en fait c'est pour notre bien, voilà. Bon, pour croire ce qu'on veut, je dois vous avouer que je trouve cette solution un peu perverse. Et l'idée que Dieu serait la source de mal, de souffrance, d'injustice pour notre bien, ne m'inciterait pas beaucoup à mettre ma confiance en lui, parce que moi je ne veux pas d'un Dieu qui me fasse du mal, même si c'est pour mon bien, si je peux dire. Enfin bref, j'ai du mal. Et pourtant, c'est cette théologie qui a survécu pendant des millénaires dans le christianisme. Elle s'est trouvée en particulier exprimée par saint Anselme, qui a d'autres grandes qualités, dans ce qu'on appelle la théorie de la satisfaction vicaire. Saint Anselme dit en effet que pour que justice soit faite, il faut que le coupable paye le prix de son crime. Et que Dieu étant un Dieu juste et que l'homme étant pécheur, il faut bien qu'à un moment donné, quelqu'un paye pour ce péché humain. Et saint Anselme dit que Jésus a accepté de payer un prix infini, puisque sa valeur est grande en tant que fils de Dieu, et que Jésus paye à notre place. Alors Dieu voit mourir un innocent, cet innocent ayant une valeur infinie puisque c'est son fils, eh bien Dieu va considérer que ça compte pour tout le monde. Et donc c'est ça la satisfaction vicaire, c'est-à-dire que Dieu va se satisfaire de la mort d'un innocent à notre place, et du coup Dieu est libéré de son désir de vengeance et peut enfin nous pardonner. Dieu accepte que le Christ prenne notre place et Dieu nous pardonne au prix de la mort de son Fils. Je dois vous dire aussi que tel quel, cette théorie est pour moi intolérable. Je ne vois pas comment Dieu aurait besoin de la mort et de la souffrance de son propre Fils pour nous pardonner. Si Dieu veut nous pardonner, qu'il nous pardonne. Si Dieu nous aime, pourquoi aurait-il besoin de la mort et de la souffrance de son Fils? Est-ce vraiment indispensable que cette torture? Donc quel est ce Dieu qui exigerait la souffrance et la mort de son Fils pour nous pardonner? Peut-être que ça convenait à un esprit du XIe siècle, mais pour moi, au XXIe siècle, je ne peux pas l'admettre. C'est pourtant ce qui se trouve dans nos liturgies depuis plus de 1000 ans. Quand on dit au culte ou à la messe « Christ, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », on a effectivement cette idée du bouc émissaire. Jésus qui se charge de notre péché et qui meurt en emportant notre péché, vous savez, comme la lessive emporte la saleté qui est sur le linge et ainsi est déversée dans les égouts. Et donc Jésus entraîne notre péché, meurt avec notre péché, et grâce à cela, Dieu est content et ne nous accuse plus de notre faute. Donc ce Christ est agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je dois vous avouer que cette théologie du bouc émissaire me semble insupportable. Et elle est aujourd'hui d'ailleurs de plus en plus remise en cause. L'interprétation sacrificielle de la mort du Christ, comme un sacrifice offert à Dieu pour que Dieu nous pardonne, est aujourd'hui de plus en plus remise en cause. Et je suis même tombé il y a quelques jours sur un texte très étonnant du cardinal Ratzinger, avant qu'il soit pape, justement condamnant ouvertement cette théologie du sacrifice en disant qu'elle était insupportable et que c'était uniquement la preuve de l'amour du Christ qui acceptait de mourir pour nous, mais pas Dieu qui exigeait sa souffrance. Et donc, en effet, le problème, c'est ça. Pourquoi Dieu aurait-il besoin de cette souffrance et de cette mort? Et comment même imaginer que Dieu ait pu vouloir cette souffrance et cette mort du Christ? Donc moi je vais vous dire, tout bien pesé, j'assume et je dis que la croix n'est pas voulue par Dieu. Et que la croix ne trouve pas son origine en Dieu, ni dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui fait souffrir Jésus sur la croix. La croix a une seule origine, c'est la méchanceté humaine. Et quand on dit « Christ, agneau de Dieu », c'est une citation de l'Évangile de Jean, mais en fait, c'est comme souvent une traduction trahison. L'évangile de Jean ne dit pas « Christ, agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde », mais « Christ, agneau de Dieu, qui porte le péché du monde ». Donc oui, certainement, Jésus-Christ a simplement porté le péché du monde. C'est-à-dire que c'est le péché du monde, la méchanceté de l'homme, la violence inhérente à l'être humain qui est tombée sur le dos du Christ. Et lui, il a dû porter, supporter la violence humaine, et il a dû supporter tout cela. Et je pense qu'effectivement, Dieu savait bien que ça arriverait, Dieu s'en doutait, bien sûr, et le Christ aussi, il le montre. Il sait que, vu son attitude et vu ce qu'il fait, de toute manière, ça va mal se finir. Il en est conscient, il l'assume, et il l'accepte. Mais ce n'est pas ça le but et l'objectif de sa mission. Sa mission, ce n'est pas de souffrir. Sa mission, c'est de témoigner d'une bonne nouvelle. Sa souffrance n'est qu'un dommage collatéral, ce n'est qu'un prix qu'il devra payer pour accomplir sa mission, prix qu'il assume et qu'il accepte par générosité et par amour pour nous. Et donc, cependant, je dirais effectivement, même si c'est du mal, ce sera quand même du bien pour nous. Voilà. Parce que Dieu est un peu génial et il arrive à transformer le mal humain en une bonne nouvelle. Et Dieu peut faire en sorte que justement même la souffrance, même le mal et même la mort d'un innocent peut devenir source de vie pour nous et peut devenir une bonne nouvelle. Donc la question c'est la suivante. Si on met de côté ce que je fais, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais cette interprétation moyenâgeuse de la satisfaction vicaire et l'interprétation sacrificielle de la mort du Christ, si on met de côté cela, quel bien peut-on tirer de la croix? Et où se trouve la bonne nouvelle dans la mort du Christ? En quoi est-ce que la mort du Christ nous sauve? Alors là, il y a tout des tas de solutions possibles. Il y en a une, je vais commencer par la plus simple et à mon avis la moins intéressante, c'est l'interprétation psychologisante. de dire que cette souffrance du Christ doit créer en nous un sentiment d'indignation. Et donc nous disons, ah, c'est vraiment injuste qu'un innocent soit ainsi coupable, soit ainsi maltraité. Et donc cela nous fait détester notre péché, parce que, on nous l'a beaucoup répété au catéchisme aussi, chaque fois que nous faisons le mal, c'est nous qui crucifions le Christ. Et donc Christ est victime du péché de l'homme, et donc il est victime de notre péché. Et souvent on a voulu ainsi culpabiliser le peuple chrétien en disant « c'est vous, par votre méchanceté, qui crucifiez le Christ ». Devant ce spectacle ignoble de la mort du Christ, vous devez apprendre à détester votre péché et à dire « plus jamais ça ». Bon, je n'aime pas ça, je vais vous dire. À la fois, je trouve que c'est culpabilisant, mais je ne crois pas que culpabiliser les gens les aide à les grandir. Et d'autre part, le « plus jamais ça », on le sait quand même maintenant, est fondamentalement inefficace. C'est ce que l'on a dit à la guerre de 14, ça nous a valu la guerre de 40. Bon, donc les plus jamais ça est la façon d'écraser celui qui est coupable en lui mettant le nez dans la fange, à mon avis, n'est jamais une bonne solution. Donc s'il vous plaît, mettons cela de côté. Alors d'autres disent, et c'est peut-être déjà un peu plus agréable, la mort du Christ, elle vient en fait de la méchanceté de l'homme, mais aussi de son engagement. Donc c'est un martyr, c'est sa volonté d'aller jusqu'au bout de son message et de son témoignage. Jésus aurait pu renoncer à sa mission, se rétracter, et il aurait pu vivre jusqu'à 80 ans tranquillement. Mais non, Jésus a voulu aller jusqu'au bout, et c'est à cause de cela qu'il est mort. Et pourquoi a-t-il été jusqu'au bout? Parce qu'il voulait que son message passe, parce qu'il pensait qu'il y avait là quelque chose d'essentiel pour nous, et donc c'est pour nous qu'il est allé jusqu'au bout, pour délivrer son message. Et donc la mort du Christ, à laquelle il aurait pu échapper, eh bien, est simplement la preuve de son amour. Donc la croix nous témoigne de l'amour du Christ. « Il n'y a pas, dit-il dans l'Évangile de Jean, de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. » Jésus a été prêt à donner sa vie pour nous, et donc cela nous témoigne de l'amour de Dieu et de l'amour du Christ. Et par conséquent, cela peut nous permettre d'en vivre. Cela est assez juste, mais je crois qu'on peut aussi encore aller un petit peu plus loin. Parce qu'en effet, même si la croix est le signe de l'amour du Christ, c'est aussi, et je l'ai dit au départ, le signe de la violence humaine. Et je pense que la croix nous permet de démasquer la violence humaine. Elle montre quelqu'un dans une situation où il est en butte à la méchanceté, à la violence, à l'injustice humaine. Et donc cela nous montre que ça existe, mais ça nous le savons, nous le subissons nous aussi à notre niveau. Et ça montre comment Dieu gère la violence et le mal et la souffrance. Et en effet, la croix, ce n'est pas, je vous l'ai dit, la violence de Dieu, mais la croix, je dirais plutôt que c'est la violence faite à Dieu. La croix de Jésus nous montre comment Dieu s'oppose à la violence, et c'est vital pour nous, et c'est ça qui est essentiel pour notre existence, c'est de savoir comment nous pouvons sortir par le haut de la violence. Donc ça permet d'abord de comprendre d'où vient cette violence. Et là, il y a un premier élément de réflexion. C'est que nous-mêmes, chaque fois que nous sommes confrontés à du mal, à de la violence ou à de l'épreuve, notre première question, c'est de se dire « D'où vient que cela m'arrive ? Pourquoi moi ? Pourquoi ceci m'arrive à moi ? Pourquoi m'arrive-t-il tel malheur et telle souffrance ?» Eh bien là, l'Évangile nous donne une réponse déjà toute simple. Ce malheur vient-il de Dieu ? Réponse, non. Est-ce une punition parce que j'ai été pécheur ? Réponse, non. Jésus n'était pas pécheur. Jésus était innocent. Donc le mal n'est pas une conséquence du péché que l'on subit. Est-ce une épreuve pour tester ma foi et ma fidélité? Réponse, non. Et donc pourquoi est-ce qu'il m'arrive des malheurs? C'est comme ça. Parce que le monde est méchant. Parce que le mal fait partie du monde. Parce que la vie est dure. Parce que la vie est fondamentalement injuste. Et ça vient simplement de la méchanceté naturelle de l'homme, ça vient de l'intolérance naturelle de l'homme. Et donc, vous voyez, c'est une erreur théologique que de chercher en Dieu l'origine de la moindre de nos souffrances, comme c'est une erreur théologique que de chercher en Dieu l'origine de la souffrance du Christ. La souffrance n'a pas de sens, la souffrance ne rentre jamais dans le plan de Dieu, et elle est fondamentalement absurde et injuste, qu'on se le dise. Et pourtant, le Christ va subir cette souffrance. Il va la traverser. Et c'est là la bonne nouvelle. C'est que cette souffrance ne va pas l'anéantir. Au contraire, il va en sortir grandi. Ça, c'est le message de la résurrection. Alors vous me direz, oui, c'est vrai, il va quand même en mourir. Mais il va en mourir physiquement. Et je dirais, la mort physique est certainement l'événement le moins grave qui soit de notre existence. De toute façon, on ne meurt qu'une fois et on meurt une fois au plus et au moins. Donc, de toute façon, nous mourrons tous. Donc la mort, notre mort n'est ni une surprise, ni une mauvaise nouvelle. La mort fait partie de la vie. Qu'on meure aujourd'hui ou demain, quelle différence ? L'important, ce n'est pas qu'on meure, puisque de toute façon, nous mourrons un jour. L'important, c'est la qualité de notre vie. L'important, c'est le sens de notre vie. L'important, c'est ce que notre vie vaut, ce qu'elle est, ce qu'il en reste. C'est ça l'essentiel. De toute façon, vous pouvez toujours faire ce que vous voulez, vous mourrez. Et donc, ne cherchez pas à éviter la mort. Cherchez simplement à ce que votre vie ait du sens. Et donc Jésus va subir le mal, il va subir la souffrance et il va s'en remettre. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que cela nous montre que le mal est inefficace. Et la résurrection, je ne l'identifierai pas avec ces histoires d'apparition qui ne m'intéressent pas. On nous dit que Jésus est apparu pendant 40 jours aux disciples. La belle affaire. L'important, c'est qu'aujourd'hui, Jésus est vivant. Et même s'il n'apparaît pas physiquement, l'important, c'est que Jésus est mort, mais que la mort de Jésus n'a rien arrêté. Que la mort de Jésus laisse Jésus totalement intact. Et qu'aujourd'hui, on parle de lui, ou encore aujourd'hui, il me fait vivre. Aujourd'hui, il peut vous faire vivre. Aujourd'hui, il est encore une source de joie, d'espérance, de paix, de force, de lumière. Et donc cela montre qu'on peut toujours tuer un homme. Jésus sort intact. Je dirais l'essentiel de Jésus sort intact de cet épisode de la Passion. Et la mort n'a rien attrapé. Elle a attrapé qu'une défroque vide, qu'un corps. Mais oui, mais on laissera tous un corps derrière nous. Mais la mort n'a rien attrapé. Et Jésus sort complet, je dirais, de cette épreuve. Il la traverse sans dommage. Et donc c'est l'illustration de ce qu'il a dit en Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignez ceux qui peuvent tuer l'âme. Parce que ça, c'est effectivement beaucoup plus grave. Jésus, toute sa vie, a prêché que la vie physique n'était pas l'essentiel. Que l'important, c'est la qualité de ce que l'on fait. L'important, c'est la dimension intérieure de notre être, la dimension spirituelle. Il a prêché que nous sommes invités à accueillir une dimension spirituelle de notre vie qui est la vie éternelle en Dieu. Et voilà que tout à coup, Jésus est confronté à cela. Et on lui dit en gros, bon alors, tu es prêt à mourir ou tu veux sacrifier le sens de ta vie? Et il va dire, justement, il va accepter de jouer le jeu et de se soumettre lui-même en acceptant de vivre ce qu'il a prêché. Et ça, c'est quand même assez fort. Donc accepter, il va accepter de passer l'épreuve et il va accepter de se soumettre à cela et de montrer qu'il est vivant, que sa vie continue d'être là et que la mort ne l'a pas anéanti et ne l'a pas réduit à rien. Et ça, c'est essentiel parce qu'il nous redonne confiance à nous-mêmes. Alors la mort de Jésus est une bonne nouvelle. Jésus est mort, la mort ne lui a rien fait et donc je vois que la mort est inefficace. Et ça me donne confiance, ça me prouve, je dirais, que la vie est autre chose que la vie physique. Alors c'est un peu la même chose, vous savez, si peut-être comme moi vous êtes cavalier, vous savez que si un cheval n'arrive pas à franchir un obstacle parce qu'il a peur d'un fossé, d'un bout de bois, de je ne sais quoi, le meilleur moyen c'est de trouver un autre cheval plus expérimenté qui lui n'a pas peur et qui franchit l'obstacle devant lui. Alors l'autre cheval franchira l'obstacle comme un rien. Et Jésus est celui-là. Celui qui franchit l'obstacle devant nous et nous ouvre la voie et enlève toute appréhension et toute peur. Et je dirais aussi que l'exemple que je donne à mes catéchumènes, c'est celui, l'illustration de cela. J'ai lu un jour que quelqu'un avait prétendu avoir trouvé la recette pour survivre au poison mortel du champignon l'amanite phalloïde, qui est mortel. Et il a dit « J'ai trouvé l'antidote ». Personne ne voulait le croire. Alors il a dit « Bien, je vais vous montrer ». Il a convoqué tous les journalistes, il s'est fait une omelette à l'amanite phalloïde, il a mangé l'amanite phalloïde. Au bout d'un quart d'heure, il s'est trouvé très malade, il a bu son antidote, il a été très malade quand même, mais il a survécu. Et donc il a ainsi réussi à dire « Vous voyez, moi, j'ai un message de vie ». Eh bien, je vais vous montrer que c'est vrai, il se l'est appliqué à lui-même. Et du coup, il montre que c'est vrai. Et ainsi donc, que m'apprend la passion du Christ ? Eh bien, elle m'apprend beaucoup parce que moi aussi, je souffre. Et quand je souffre, qu'est-ce que m'apprend cette souffrance du Christ ? Plutôt que de dire que, ou plutôt que le Christ a souffert, il me montre le chemin. Il me montre que le mal n'est pas un obstacle au plan créateur de Dieu, ni au fait d'avoir une vie réussie. Il montre que la mort ne retient rien, que le mal matériel ne fait pas grand mal et ne touche rien d'important. Ensuite, dernier élément à l'égard de cette réflexion sur la passion, c'est que cela nous enseigne aussi comment Dieu réagit par rapport au mal. Parce qu'en effet, devant cette situation problématique du Christ matériellement, que fait Dieu ? Est-ce qu'il envoie des légions d'anges ? Est-ce qu'il fait un miracle pour le faire descendre de la croix ? Eh bien non, Dieu n'agit pas matériellement pour sauver le Christ. Et pourtant, je suis convaincu, comme tout bon théologien, que Jésus n'a pas été abandonné sur la croix. Donc vous voyez, il y a là une leçon de théologie très simple, c'est que ce que Dieu fait dans notre vie, ce n'est pas nécessairement une aide d'ordre matériel. Il n'envoie pas des légions d'anges pour nous empêcher de souffrir ou d'avoir des problèmes. Mais jamais il ne nous abandonne. Et il nous donne une aide qui est d'un autre ordre, qui est d'ordre spirituel, et il nous sauve intérieurement. Alors pourquoi Dieu laisse-t-il faire ? Eh bien parce que son royaume n'est pas de ce monde. Il fait beaucoup, mais dans un autre domaine. Ou parce que le monde matériel, c'est le domaine de la liberté de l'homme. Donc si vous avez une maladie, ne priez pas Dieu, allez voir un médecin. Dieu a confié le monde matériel à l'homme. Et là, vous avez deux solutions. Soit vous dites, Dieu est tout-puissant, mais il a choisi de confier le monde matériel à l'homme et il veut laisser cette liberté à l'homme. Et s'il passait son temps à intervenir, que voudrait dire la liberté de l'homme ? Ça, c'est la solution classique. Soit vous optez pour la solution moderne, qui est de dire « Dieu est spirituel, il est dans le ciel et il n'agit pas sur terre. Il agit à l'intérieur de l'homme, il agit spirituellement mais pas matériellement. » Vous avez le choix, dans tous les cas, cela revient au même. Et donc Jésus va réagir par rapport, donc voilà comment Dieu réagit, et Jésus aussi, on voit comment il réagit. Et on voit que Jésus réagit de manière non violente à cette violence qu'il subit. Et peut-être là aussi y a-t-il à ce moment-là une leçon qui n'est plus tellement théologique mais qui est simplement humaine. Parce que c'est un bel exemple. Jésus devant ce mal auquel il est confronté ne se révolte pas, mais il le dépasse, il fait avec. Il le vit avec patience. Et peut-être que c'est aussi cela que nous devons faire. Par rapport au mal qui nous est imposé, le mieux c'est peut-être de faire comme le Christ et de le prendre avec patience, et de boire la coupe qui nous est donnée, parce que nous devons boire la coupe qui nous est donnée à boire, et puis c'est tout. Donc il faut l'accepter en sachant que l'issue est ailleurs. Et d'autre part, Jésus va refuser la logique de la violence. Effectivement, il ne va pas entrer dans la spirale de la violence, même si elle aurait pu être légitime, parce que la spirale de la violence, que ce soit vis-à-vis des gens ou vis-à-vis des événements, risque de finir par broyer même la victime et même l'innocent encore plus. Et donc l'attitude de Jésus nous montre qu'il y a d'autres moyens que la violence pour réagir à la violence. C'est l'amour, le respect. La violence est naturelle chez l'homme. L'homme est naturellement violent. C'est sa manière naturelle de gérer les conflits. Et justement, c'est l'éducation, la réflexion, l'élévation qui permet de dépasser ce stade de la violence et de gérer autrement et de chercher la paix et le dialogue. Mais revenons à des considérations plus théologiques. Plus théologiquement, et c'est là peut-être les avancées les plus récentes de la théologie, c'est de dire que ce qui est nouveau dans la croix, c'est que Dieu n'est pas du côté du puissant, mais Dieu est du côté de la victime. Dieu n'est pas du côté de la toute-puissance, mais du côté de celui qui souffre. Certains théologiens ont même parlé, dans la mort de Jésus, du fait que c'est Dieu qui est crucifié. Je n'aime pas ça parce que Dieu est absolu et Dieu n'est pas crucifié, mais néanmoins, il y a peut-être quelque chose de vrai là-dedans. C'est que dans la croix du Christ, on nous présente un Dieu qui est du côté de la victime. Alors ça me fait penser à une histoire encore où l'on raconte que des détenus dans un camp de concentration interpellaient l'aumônier suite à la pendaison de 3 otages. Et il paraît qu'il y avait là un jeune dans ces 3 otages qui tardait à mourir, et les détenus, devant cette agonie insupportable, s'en prenaient violemment à l'aumônier en disant « Mais où est-il ton Dieu ? Et c'est qui ce Dieu qui permet cela ?» Et on raconte que l'aumônier aurait simplement montré du doigt le jeune adolescent en pleine agonie et aurait dit « Vous n'avez rien compris, Dieu, il est là. » Alors c'est assez discutable, mais ça m'arrive aussi quand j'ai affaire à des familles vraiment bouleversées par des épreuves et me disent « Mais alors que fait Dieu ?» Eh bien ça m'arrive de dire « Dieu, il est assis à côté de vous pour pleurer avec vous. » Alors vous me direz, ça me fait une belle jambe, moi j'ai besoin d'un Dieu qui me sauve. Oui, mais Dieu me sauve aussi. Mais Dieu n'est pas une sorte de Deus ex machina, Dieu est aussi celui qui compatit et celui qui aime. Et peut-être cela doit-il nous inviter à quitter l'idée d'un Dieu glorieux et victorieux, justement changer complètement notre logique, je dirais, de ce que nous attendons naturellement de Dieu. Nous, et la plupart des gens, veulent un Dieu Superman, un Dieu qui fait tout, qui intervient, qui peut guérir les maladies, enlever les guerres, tout régler, tout faire. Eh bien justement, Dieu n'est pas celui-là. Et la croix nous montre que Dieu n'est pas un Superman. Donc abandonnons l'idée, s'il vous plaît, d'un Dieu glorieux, d'un Dieu victorieux, d'un Dieu qui punit, d'un Dieu qui extermine les méchants, d'un Dieu qui juge. Dieu, c'est le bien, Dieu, c'est la vie, Dieu, c'est l'éternité. Dieu n'est pas du côté des forts, il n'est pas du côté des champions, il n'est pas du côté de ceux qui écrasent et qui tuent, mais il est côté de ceux qui aiment. Et c'est ça la vraie grandeur. Ce qui est essentiel en Dieu, ce n'est pas le règne, la puissance et la gloire. Ce qui est essentiel en Dieu, c'est l'amour, le pardon, l'humilité et la paix. Dieu est avec la victime, il est avec le faible, avec celui qui souffre. Et contrairement à ce qui se passe dans notre société, où le petit, le faible est réduit à rien, eh bien Dieu, il est sans doute plus présent auprès du plus faible qu'auprès du plus grand. Et sans doute que Dieu est plus présent, je dirais, dans une maison de retraite, avec des êtres humains réduits à peu de choses, dans des situations épouvantables, que dans une belle liturgie, dans une cérémonie glorieuse, avec tous les puissants de ce monde au premier rang, et les pasteurs et les prêtres avec des grandes étoles. Dieu est là où il y a de la souffrance. La croix nous enseigne un Dieu humble, un Dieu compatissant, proche de celui qui souffre, proche du petit, proche de l'opprimé. Et ça m'a permis de comprendre quelque chose, c'est que j'ai longtemps demandé à des professionnels de la théologie de dire « Mais quand je souffre, qu'est-ce que la croix du Christ m'apprend ?» Et on m'a dit pendant des années « Eh bien, quand vous souffrez, vous savez que le Christ a souffert, donc ça vous rapproche du Christ. » Ça ne m'a jamais convaincu. Mais aujourd'hui, j'ai compris autre chose. C'est que ce n'est pas ma souffrance qui me rapproche du Christ. C'est la souffrance du Christ qui le rapproche de moi. Et ça, c'est très différent. Parce que quand je vois le Christ, je sais que je ne suis pas le premier. Et je sais que, en fait, la souffrance du Christ le rapproche de moi. et ainsi je ne suis plus seul, il y a quelqu'un qui m'aime et qui me comprend, il y a quelqu'un qui a traversé cette souffrance, qui a vaincu la mort, qui a gardé confiance et qui a réussi à sortir justement par le haut. Ça, c'est la bonne nouvelle de Pâques. Et ainsi, certains sont passionnés par la croix, la théologie de la croix. Finalement, non. Moi, ce qui me passionne, c'est la résurrection. Et ce que j'aime, c'est la croix vide des protestants. Pas une croix où il y a un Jésus souffrant dessus, une croix avec personne dessus. Les protestants mettent jamais Jésus sur la croix. Parce que justement, c'est la croix qui n'emmène rien. La croix vide. La mort n'a plus de puissance. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? La croix n'a rien emporté. Jésus est vivant. Jésus a traversé cette épreuve. L'essentiel est au-delà de toute épreuve. L'essentiel est invisible pour les yeux. Et donc, Jésus a traversé cela. La mort n'est rien. La souffrance n'est rien. La vie est tout. Et le Christ nous en a ouvert le chemin. Il est le bon berger qui marche devant. Il est celui qui ouvre la matrice. Il est celui qui casse la muraille et qui permet à l'ensemble des prisonniers de sortir de la forteresse pour accéder à la lumière, au vert pâturage, à la nourriture, à la liberté et à la joie. Et donc, oui, Seigneur, merci à lui de nous avoir ouvert ce chemin de liberté, de vie, de joie et de paix. Amen.